Bonsoir à tous. Pour vous, c'est quoi un homme, un vrai? Un mâle viril, poilu, musclé, affirmé, avec une moustache, un regard de braise, une poigne de fer, un mec qui paye toujours la note au restaurant, qui vous tient systématiquement la porte et s'assied après vous. Un homme à l'ancienne, quoi, qui pense quand même que les femmes, c'est plus fragile que les mâles et qu'il faut donc les protéger. Ça, c'est le modèle super macho. Le 21e siècle en a créé un autre, l'homme doux et compréhensif, le métrosexuel, qui sort les poubelles, qui cuisine mieux que sa femme, mieux que sa mère même. Il fait attention à sa peau, il bavarde longuement avec ses voisines, avec ses amis, il s'occupe des enfants, il fait le ménage et des tartes aux abricots, il s'épile soigneusement, il travaille à temps partiel, il consulte régulièrement son psy, car oui, il est sensible et fragile lui aussi. Ça, c'est le modèle d'aujourd'hui, une sorte d'anti-macho. Mais nous, les femmes, cela ne semble pas nous convenir non plus, c'est que nous voulons tout. Un homme protecteur, mais compréhensif, sensible, mais solide, la douceur et la force, et il semble bien que les hommes d'aujourd'hui sont un peu perdus dans une quête d'identité idéale. Comment être un homme aujourd'hui? Ne faudrait-il pas tout simplement être?
Entre nous soit dit, Mélanie Croubalian.
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on se pose autant de questions sur les hommes, hein, parce que il fut un temps où on s'en posait pas. Un homme, c'était juste quelqu'un qui assurait, qui gagnait sa vie, qui conduisait la voiture, qui avait un certain nombre de comportements stéréotypés, puis il se débrouillait avec ça, et personne ne se posait la question de savoir ce que c'était qu'un homme. Maintenant, on se pose la question. C'est ça, la grande nouveauté. On se pose la question parce que c'est plus vraiment évident de définir un homme par rapport à son comportement. La voiture ou tout ce que vous venez d'énumérer, ça suffit plus, parce que faire à manger, tout le monde peut faire à manger, les hommes, les femmes, conduire la voiture aussi, s'occuper des enfants, les hommes et les femmes peuvent s'en occuper. Donc c'est plus le comportement qui définit ce que c'est qu'un homme ou ce qu'est une femme. On doit aller chercher ailleurs, dans d'autres dimensions. Alors certains vont chercher dans la biologie, ok, certains vont chercher dans l'influence sociale, les déterminations, les conditionnements, etc. Moi, en ce qui me concerne, ce qui m'intéresse, c'est justement le questionnement. Donc le fait qu'on puisse se consacrer à se poser des questions en tant qu'homme, est-ce que je suis bien dans ma peau d'homme? Est-ce que je me sens frustré? Est-ce que je me pose des questions? Le fait qu'on puisse s'interroger et partir dans une espèce de voyage qui consiste à chercher un peu là autour, ça c'est ce qui m'intéresse. Donc effectivement, on voit qu'il y a des modèles d'hommes qui ont évolué au fil du temps. Maintenant, il y a un peu de flou là autour. Ça m'intéresse pas vraiment de donner un nouveau modèle, mais plutôt de laisser la chose ouverte et puis de voir un peu ce qui émerge.
Et puis il y a plusieurs modèles probablement qui émergent finalement.
Il y en a énormément, il n'y en a jamais eu autant.
On a une grande liberté aujourd'hui. Docteur Alexis Burgère, car c'est vous qui me parlez et qui êtes mon invité ce soir et qui me faites le plaisir d'être là. Vous publiez ces jours aux éditions Favre le défi masculin, sous-titre 20 ans de dialogue avec des hommes. Ça fait longtemps que vous parlez avec des hommes, vous, psychiatre, psychothérapeute.
Oui.
Ça a changé, hein, d'ailleurs, en 20 ans, on imagine bien justement cette grande liberté qu'on a aujourd'hui, qui est peut-être un peu déstabilisante, parce qu'on ne sait plus tellement. Avant, c'était simple, mais c'était peut-être un peu moins drôle aussi. Hein.
Alors, c'est un peu ça, effectivement. C'était plus simple, c'était moins angoissant, mais c'était moins rigolo. Et maintenant, il y a une certaine inquiétude liée à la liberté. Il y a toujours une inquiétude liée à la liberté, parce que la liberté, c'est pas juste un donné, c'est quelque chose qui doit se prendre. Et puis, il y a des choix à faire, il y a des décisions. Donc, on peut se tromper. Alors, il y a une certaine inquiétude, c'est vrai, mais l'avantage de la liberté est tellement énorme qu'on aurait tort de s'en priver. Et au 21e siècle, il y a une liberté inouïe dans tout ce qui concerne les genres et les relations de couple. On voit un nombre de choses inouïes, que ce soit hétéro, homo, que ce soit des gens qui habitent ensemble, des gens qui habitent pas ensemble, qui se mettent en couple, que ce soit des différences d'âge, que ce soit les mêmes âges. Il y a une variation de situations, une diversité qu'on n'a jamais vue. Mmh. C'est clair, on l'a jamais vue.
Alors vous, Alexis Burgère, vous êtes psychiatre, vous êtes psychothérapeute, vous accompagnez beaucoup d'hommes, vous avez même organisé des voyages dans le désert, vous le faites régulièrement avec des groupes d'hommes, justement pour parler de masculinité, pour tenter de poser des questions, justement, autour de la masculinité. Mais vous êtes un homme aussi.
Oui.
Je vous vois devant moi, vous avez une chemise rose et bleue. Je trouve ça drôle parce que c'est un peu les deux couleurs qu'on attribue normalement aux hommes et aux femmes. Vous en êtes où, vous, dans votre questionnement autour de l'homme que vous êtes?
Ah, maintenant, je suis ravi de partager ça avec d'autres hommes et puis d'en faire une activité. Pendant un certain temps, c'était plus un questionnement où je je me sentais moi en recherche, parfois mal, parfois juste en recherche. Et j'ai fait énormément de groupes hommes et de ce qu'on appelle dans le jargon travail homme pour moi retrouver une certaine aisance dans ma vie. Avec les années qui passent, quand on découvre des choses comme ça, on a envie de les partager. Donc ça a beaucoup influencé ma pratique professionnelle. Tout à coup, je me mettais à voir les hommes autrement, à comprendre les couples autrement, etc. Et puis, je me suis mis à faire ces voyages où non seulement on se pose des questions, mais on remet sérieusement aussi sur l'établi un certain nombre de choses. On fait des exercices assez exigeants, on fait des mises en situation, on s'adresse aux traumatismes qui ont touché les hommes, on s'adresse à des questions chaudes aussi, comme la violence, etc. Mmh. Donc ça m'intéresse. Moi, je me sens beaucoup mieux maintenant dans ma peau d'homme qu'à 20 ans, ça c'est certain.
Mmh. Vous étiez quel homme à 20 ans ?
Ben, j'étais plutôt ce qu'on pourrait appeler un homme doux, les longs cheveux, des bijoux, beaucoup de rêves dans la tête, et puis pas énormément de capacité à transformer tout ça en réalité, un peu de flottement dans la réalité. Voilà, c'était une période où l'effort pour se différencier par rapport au passé, il était très net dans les fins des années 60, années 70, mais c'était plutôt la négation du modèle du macho. C'était vraiment ne surtout pas être un macho. Donc, développer les côtés féminins, oui, mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que les côtés masculins est passé un peu à la trappe, et puis finalement, personne n'était content au bout d'un moment.
Ça nous manquait aussi à nous, les femmes.
Voilà.
Certains côtés.
Alors ça, c'était
très net. Il n'y a pas que des avantages.
Mais à l'époque, c'était très net. Les femmes, surtout les femmes féministes, adoraient les hommes doux au début, et puis vice versa. Et au bout de quelques mois, ça dérapait très vite. Ça allait plus. Il y avait quelque chose qui allait pas au niveau de tenir bon, au niveau de surmonter, au niveau de tenir ses propres positions, il y a quelque chose qui n'allait pas à ce niveau-là. Je pense que pour l'homme que j'étais, ça avait à voir avec un problème de masculinité. Mmh. Un rejet massif de la masculinité qui pouvait avoir son sens, mais qui était totalement illusoire.
Si vous deviez décrire l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui, Alexis Burgère, vous le décririez comment ?
Si je devais décrire ce que je suis devenu, je ne pourrais plus axer ça seulement sur l'homme, je devrais parler de ma famille, je devrais parler de toutes mes démarches, parce que finalement, quand on commence à être à l'aise dans son genre et dans son identité, eh ben, on est à l'aise dans d'autres domaines, puis on explore. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est pas forcément remettre en question les notions de genre, parce que, je pense que je l'ai beaucoup fait, puis que je trouve un certain équilibre, en tout cas, dans ma vie de famille et de couple. Mais je suis quelqu'un qui continue à explorer beaucoup, à voyager beaucoup, à chercher beaucoup, puis j'espère que ça restera vivant, cette curiosité, jusqu'à la fin.
Notamment à travers les hommes que vous accompagnez et qui sont, alors, eux, en plein questionnement.
Et ça, c'est passionnant. Pour moi, c'est un de mes grands plaisirs de l'année, c'est de partir dans le désert avec ces groupes, parce que c'est tellement vivant, j'aime énormément ça.
Ouais. Mmh. Vous le décrivez très bien dans le défi masculin et vous abordez des questions absolument incroyables avec ces hommes qui viennent parfois complètement innocents, vierges de tout travail thérapeutique.
Il y en a beaucoup qui n'ont jamais fait de travail thérapeutique, il y en a qui ont fait du travail thérapeutique. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de mélanger, c'est d'avoir des gens, justement, qui ont une certaine expérience de travail sur eux-mêmes, d'autres qui sont nouveaux à ce type de démarche. J'aime aussi mélanger les générations, j'essaie toujours d'avoir en tout cas deux, mais si possible trois générations. Et puis j'aime bien, si on peut, aussi mélanger les orientations sexuelles, hétéro, homo, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus riche, ces groupes, quand on peut vraiment entrer dans une certaine intimité, un partage avec des gens qui vivent des choses différentes.
Qui vivent différents modèles aussi, hein, célibataires, en couple depuis des années, polygame, sériel éventuellement. On va parler des hommes, bien sûr, aujourd'hui, mais on va surtout parler de l'homme que vous êtes, que vous étiez et que vous êtes devenu, Alexis Burgère, et de votre pratique, bien sûr aussi, tout ça à travers votre parcours. C'est une psychanalyse inversée, peut-être, aujourd'hui, que nous allons faire, même si je ne prétends pas du tout pratiquer votre métier, Alexis Burgère. Alors, pour l'instant, je vous propose tout simplement d'écouter une chanson. C'est Gérard Manset, c'est Nathalie Schoenberg, notre programmatrice musicale, qui nous le propose, parce que je sais qu'elle aime bien Gérard Manset, avec un titre qui va assez bien avec le propos du jour, c'est L'amour brisé.
Toujours brisée, un lumière pas misée qui cache le désespoir. Les murs de pisée, hein, toujours l'amour brisé, l'âme robotisée, hein, la femme à 100 lieues, hein, sans que l'amour ait lieu. Hein, toujours l'amour malade, toujours l'amour gratte sa pelade dans la boîte à gants. Toujours l'amour malade, ou sous perfusion. De baumes et de pommades, de circonlocution. Un jour, dans ton assiette, un simple mot te fait tourner la tête.
Alexis Burger, vous m'avez dit juste quand les premières notes ont résonné, moi aussi j'aime bien Gérard Manset, bah, tant mieux alors, ça commence bien cette émission avec vous. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, vous suivez depuis 20 ans des hommes divers et variés dans leur quête de masculinité, dans leurs questions autour de la masculinité, avec les vôtres aussi de questions. Et vous publiez ces jours aux éditions Favre Le Défi Masculin, sous-titre 20 ans de dialogue avec des hommes. Vous l'avez écrit avec le concours d'Alain Maillard d'ailleurs, ce livre. Et vous, ce livre, il pose plein de questions en fait autour de qu'est-ce que c'est que d'être un homme aujourd'hui, au 21e siècle. Pas facile comme question. Des fois, nous, les femmes, on se dit, j'aimerais pas être un homme aujourd'hui. Ça doit être très compliqué de savoir ce que nous voulons, car nous-mêmes ne le savons parfois pas. On va revenir sur des souvenirs à vous. Et pour ce faire, nous allons partir loin, pas dans le désert, mais ailleurs.
L'intrépidité parfaite ne peut être atteinte que par celui qui a réalisé le suprême. Car cela implique qu'il est libéré de l'illusion des mirages. On peut toujours se rapprocher de ce but si l'on fait un effort décidé et persévérant, et si l'on entretient la confiance en soi. Comme je l'ai dit dès le début, il faut nous débarrasser de toute crainte extérieure. Mais il faut toujours craindre les ennemis intérieurs. Nous avons raison de redouter la passion bestiale, la colère, etc. Les craintes extérieures cessent d'elles-mêmes une fois que nous avons triomphé de ces traîtres dans notre camp. Pour toutes ces craintes, le corps est le centre autour duquel elles évoluent et par conséquent elles disparaissent dès qu'on s'est libéré de l'attachement pour le corps. Nous voyons ainsi que toute crainte extérieure est tissée sans aucune base par notre façon de voir les choses. La crainte n'a point de place dans notre cœur lorsque nous avons rejeté notre attachement pour la richesse, la famille et le corps. Jouis des choses de la terre en y renonçant est un noble précepte. La richesse, la famille, le corps seront là malgré tout. Il nous suffit de modifier notre attitude envers eux. Tout cela appartient à Dieu et pas à nous. Absolument rien dans ce monde n'est à nous. nous-mêmes lui appartenons. Alors pourquoi aurions-nous la moindre anxiété ?
Que de profondeur dans ses propos, et c'est normal parce que c'est Gandhi qui les a écrits. Vous avez reconnu ça, Alexis ?
J'avais pas reconnu, non.
C'est un extrait des lettres de l'ashram de Gandhi. C'est une lecture qui date de 1977, qui se trouvait dans nos archives. Alors si je vous fais écouter ça, c'est pour deux raisons. D'abord parce qu'on parle de lettres d'un ashram, et vous y avez séjourné plusieurs fois dans un ashram, et puis c'est Gandhi, et puis c'est l'Inde, au fond. L'Inde que vous avez découverte à quel moment ?
À l'Inde, je sais pas, j'ai toujours eu envie d'aller en Inde. Et même enfant, quand je voyais des photos de... d'Inde, ça me faisait quelque chose. J'avais envie de voir ça une fois. J'avais un rapport, je sais pas d'où ça me venait. Ce qui fait que dès que j'ai eu l'occasion, à 22 ans, j'ai arrêté mes études, j'ai gagné de l'argent en travaillant dans les hôpitaux, puis je suis parti.
Et alors ?
Eh ben, j'ai eu un peu l'impression de renaître, parce que c'était une période difficile. J'avais une situation familiale qui était très compliquée, des choses lourdes, etc. Et j'avais un peu l'impression, en plus avec les études de médecine, de devenir une espèce d'échalas sec et nerveux, qui n'avait plus vraiment de matière sur ses os. Et partir en Inde, c'était tout à coup une sorte de renaissance pour moi. Je me suis toujours senti bien en Inde. C'est un pays extrêmement féminin, si on veut parler de genre, c'est un pays très très réceptif. J'ai vraiment repris beaucoup ma matière, repris confiance dans mes goûts, confiance dans mes envies, dans mes objectifs. Donc j'aimais beaucoup ce pays, je l'ai beaucoup parcouru, exploré. Après j'y ai travaillé aussi. Donc ça, c'est un peu mon deuxième pays, j'y vais encore tout à fait régulièrement. Mmh. Mais à cet âge-là, évidemment, c'était particulier, parce que c'était 1975, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas tout ça. Donc la distance apparaissait beaucoup plus grande que maintenant. Quand on y allait, en général, on y allait pour des mois, on n'allait pas pour une semaine. Et on n'avait pas de contact. Quand on écrivait, ça prenait 3 semaines. Les téléphones étaient impossibles. On devait réserver les téléphones 15 jours à l'avance et puis être là à l'heure dite pour faire un téléphone, c'était juste impossible. Donc, le voyage en Inde, en tout cas, c'est un très grand éloignement. On était vraiment coupé de la vie occidentale, plongé dans quelque chose totalement nouveau. Et ça m'a fait beaucoup de bien.
Donc, vous aviez besoin,
apparemment. Oui, j'avais terriblement besoin de ça.
Mmh. Alors, vous êtes né à La Chaux-de-Fonds. Oui. Donc vous quittez La Chaux-de-Fonds vers 22 ans ou c'était,
non, non,
si
non,
vous étiez déjà à Neuchâtel.
À 3 ans, La Chaux-de-Fonds. Je suis de la région lémanique, en fait. Mmh. J'ai pas grandi longtemps à La Chaux-de-Fonds, mais j'y suis né.
Vous quittez la Suisse à 22 ans, jeune étudiant, brillant, vous arrêtez vos études, vous travaillez, vous faites un peu d'argent. C'est vrai que dans les années 70, c'était aussi
assez
un peu...
facile, surtout pour des étudiants en médecine, il suffisait d'aller travailler dans les hôpitaux, on faisait de l'argent, et puis avec le différentiel de coûts, avec 3 ou 4 mois de travail ici, ben on vivait une année sans problème.
En Inde. Alors, vous décidez de partir. J'aimerais que vous me racontiez justement le premier jour quand vous êtes arrivé en Inde. Comment ça s'est passé ?
Alors, c'était pratiquement catastrophique parce que j'avais aucune idée de ce qu'était ce pays. Et j'ai débarqué avec des gens, avec mon ami de l'époque et des gens que j'avais rencontrés dans l'avion. On s'est retrouvé à Old Delhi autour de la grande mosquée qui était à l'époque un gigantesque bidonville autour d'une des plus grandes mosquées du monde. Dans un bruit absolument infernal, dans une vie dont j'avais aucune idée. L'impression que j'avais, je me rappelle très bien, c'était de marcher 20 centimètres en-dessus du sol. J'avais l'impression que j'étais dans une espèce de rêve, je ne savais pas ce qui se passait. J'avais aucune idée si c'était dangereux, pas dangereux, si j'aimais pas. J'avais l'impression d'être projeté dans quelque chose de totalement nouveau pour moi. Et puis bon, ben on s'habitue, on apprend quelques mots de la langue, on commence à comprendre comment faire pour avoir un hôtel potable, enfin, on trouve ses marques.
Ça a changé quoi dans votre façon d'être un homme, ce premier séjour en Inde ?
Le premier séjour m'a mis très à l'aise avec des côtés plutôt féminins de mon être, comme se laisser aller, se laisser faire, se laisser porter, parce que c'est un pays où il vaut mieux se laisser porter, parce que quand on va contre, on se fait juste piétiner, quoi. Il faut se laisser porter, s'ouvrir à ce qui s'offre, s'ouvrir aux propositions. Il y a toujours des choses qui se passent. Donc, dans un premier temps, c'était beaucoup ça, avec le plaisir de pouvoir quand même aller à la rencontre de certaines personnes, voir des paysages, etc. Peu à peu, la question de la masculinité est revenue, évidemment. Mais il me fallait une espèce de bain yin pour pouvoir renouer avec le yang. C'était quelque chose comme ça. L'Inde m'a servi à ça, en fait. Et je suis très reconnaissant à ce pays. C'est un pays d'une incroyable générosité si on s'ouvre à ce qu'il a à donner.
Alors, vous avez dit que l'Inde est un pays féminin pour vous. En même temps, l'Inde, c'est aussi une grande violence.
Oui, bien sûr.
C'est un pays dur.
C'est un pays très dur.
C'est un pays où il y a beaucoup de viols, surtout ces temps-ci.
Alors, peut-être même plus maintenant. Enfin, non, je pense qu'il y en avait déjà beaucoup à l'époque. On en parle plus maintenant. Et ce qu'il y a de nouveau en Inde, c'est qu'auparavant, les castes et les classes sociales étaient très clairement distinguées les unes des autres. Donc, les femmes qui subissaient les violences, c'était généralement des femmes de basse caste. Et par conséquent, elles n'avaient pas vraiment droit à la parole. On n'en parlait pas. Tandis que maintenant, avec le brassage des populations, les grandes villes, etc., il se trouve qu'il y a aussi des femmes de la classe moyenne qui sont victimes de violences, et on en parle. Donc ça a changé la donne, parce qu'à partir du moment où on en parle, les choses commencent à changer, les langues se délient, les journalistes vont un petit peu enquêter, et puis tout à coup on se rend compte de l'ampleur du problème. C'est assez catastrophique, hein, faut le dire, mais il vaut mieux qu'on puisse en parler, disons-le comme ça.
C'est aussi un pays où on parle de plus en plus de la criminalité contre les filles, hein. On tue les filles à leur naissance,
Avant la naissance, c'est comme en Chine, à partir du moment où on a mis en place tous ces tests de, notamment les ultrasons ou des tests prénataux, qu'on a pu savoir quel était le sexe de l'enfant, on a assisté à des avortements sélectifs des fœtus féminins. C'est une abomination. Il y a des régions en Inde, au Punjab notamment, où il y a à peu près il y a à peu près 8 femmes pour 10 hommes. Dû en fait aux avortements sélectifs.
Au manque de femmes. Ce qui a peut-être aussi un lien avec ces viols qui sont en recrudescence.
Ça a certainement un lien. C'est que depuis qu'on a ce déséquilibre-là, on se rend compte que les femmes se cachent beaucoup plus. Il y a 30 ou 40 ans, en Inde, les femmes se cachaient pas. C'était pas du tout comme dans les pays musulmans. Les femmes étaient partout. Mais avec cette tension qui est entre les deux sexes, où il y a des états entiers où 20% des hommes savent qu'ils ne trouveront pas de femmes, ça crée une tension très pénible pour les femmes. Donc elles se cachent beaucoup plus, oui. Alors il y a aussi des réactions contre ces phénomènes, il faut le dire, ça, puisque c'est quand même une démocratie, il y a des interdictions des avortements, il y a des surveillances des cliniques qui les pratiquent, etc., etc. Mais enfin, tout ça est très compliqué parce que c'est un grand pays.
Alors ça, c'est pour l'Inde, mais j'aimerais qu'on revienne quelques années encore en arrière. Je me demandais quel modèle d'homme vous aviez eu dans votre enfance et quel modèle de père, notamment.
Ben, j'ai un père qui faisait partie de la génération de la guerre ou de l'après-guerre. Donc, lui, il a vécu sa jeunesse pendant la guerre. Et puis, il a vécu son âge adulte et puis sa profession dans l'après-guerre. Et ces hommes-là étaient très marqués par pas la guerre seulement, l'idée du front ou des choses comme ça, mais par l'ambiance de la guerre et par les implications de la guerre. L'isolement, la Suisse est un pays très fermé par la force des choses à ce moment-là, le fait de toujours surveiller ce qu'on dépense, toujours avoir un certain souci par rapport à la nourriture, devoir s'organiser pour être sûr de pas manquer, des choses comme ça. T'es très marqué par ça, très marqué aussi par ce qui revenait aux hommes à cette époque-là, c'était de faire ce qu'on a à faire et puis pas trop se plaindre. C'est-à-dire que c'est clair que quand il y a des pays en guerre, on commence pas à se plaindre pour les petits bobos, parce qu'il y a des choses tellement plus graves que voilà. Donc les émotions, par exemple, ça vient vraiment au deuxième plan. Et les hommes qui tiennent le coup dans des contextes comme ça, c'est des hommes pas trop sensibles, parce que si on est trop sensible, on s'abîme à la longue, à assister à trop de choses pénibles. Alors lui, c'était un homme comme ça, donc c'était vraiment un homme de l'autre génération qui s'est pas vraiment adapté à, je sais pas, ce que nous on appelait la pop musique à l'époque, les Beatles, les Stones et les choses comme ça. Ça, c'était pas du tout son monde, il a jamais compris ça jusqu'à la fin de sa vie, où curieusement, il s'est ouvert à ça.
Ah oui.
Et où il a réalisé honnêtement que ben voilà, quand les Beatles chantaient Let It Be, il comprenait pas que c'était une belle musique à cette époque-là. Mais quand on l'a eu chanter avec ses petits enfants devant l'arbre de Noël, Il a dit, mais c'est beau ces paroles, tu sais, c'est les Beatles. Ah bon?
Peut-être que le travail de son fils autour de la masculinité a peut-être aussi influencé sa manière de...
Ça l'a énormément touché, un peu mis mal à l'aise, mais ça l'a énormément touché. On avait fait ce film, Le souffle du désert, où il y avait justement plusieurs générations, dont un homme qui très honnêtement parlait de son rôle de grand-père. Et comment
un homme de 70 ans, je me souviens.
Voilà. Mm-hmm. Et il disait, cet homme, il avait dit cette phrase, le grand-père a racheté le père. Et il parlait de lui, là, pour dire que quand il était père, il y avait bien des trucs sur quoi il avait pas fait ce qu'il aurait voulu, quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors que comme grand-père, il a pu se rattraper. Et mon père avait été terriblement touché par ce témoignage. Mm-hmm. Il a été très, très marqué par ça. Et il avait beaucoup aimé le film pour des choses comme ça.
C'est peut-être le cas de beaucoup d'hommes de cette génération, qui étaient pris dans un système où il fallait
travailler. Voilà, ils étaient pris dans un système qui était quand même très contraignant. Alors, c'est vrai que, vu de notre côté, ça nous semblait lourd, mais quand on se remet dans leur situation, dans leur contexte, c'était pas très très sympa ce qu'on leur donnait comme destinée. Mmh. Alors par contre, c'était des hommes qui étaient très fiables. C'était des hommes qui se lancent, quand ils se lançaient dans quelque chose, ils faisaient ce qu'ils disaient. Et tout ce qu'on entend actuellement sur les hommes qui ne s'engagent pas, c'était pas vraiment une critique qu'on aurait pu leur faire. Eux, quand ils s'engageaient vraiment. Mais de façon un peu, comment dire ça, plutôt par sens du devoir que par envie, voyez. Donc c'était pas aussi vivant que quelqu'un qui s'engage parce qu'il a une envie.
Quelqu'un qui s'engage aujourd'hui, il s'engage différemment.
Voilà.
C'est sûr, mais c'est plus rare.
Mais c'est plus rare.
C'est quoi, une maladie de génération?
Oui, je pense. C'est-à-dire qu'on paye pour le passé, on paye pour ce qu'on a aussi fait jouer aux hommes. On paye aussi pour certains abus dont les hommes ont été victimes. Les hommes n'ont pas été victimes d'abus sexuels, mais on a beaucoup abusé de la fierté masculine. On a abusé du sens du devoir des hommes. Mettre des hommes dans une armée et puis lui dire mettre un homme dans une armée et lui dire c'est ton devoir de faire ce qu'on te dit. Pour moi, c'est abuser du sens du devoir de cet homme-là. Et on a beaucoup fait ça avec les hommes des précédentes générations, et je pense qu'à partir des années 80-90, il y a de plus en plus d'hommes qui se l'ont peut-être pas dit très clairement, mais c'était « moi, on va pas me faire un coup comme ça, quoi. Mmh. On va pas m'enfermer dans des trucs, dans des devoirs qui sont pas ce que je souhaite, on va pas m'enfermer dans des missions qui sont pas la mienne. » Il y a eu un très fort rejet, mais très indirect, comme souvent avec les hommes, on n'en parle pas, donc on peut pas vraiment élaborer là autour. Mais il y a eu beaucoup d'hommes qui ont dit, moi je vais pas me remettre la corde au cou, comme on disait, ou je vais pas me remettre derrière des barreaux, je vais pas me retrouver dans la position de mon père. Mmh.
Qui ont réagi très violemment dans l'autre sens. C'est toujours un mouvement de balancier.
C'est un mouvement de balancier. Évidemment, les femmes qui voient ça, elles le comprennent pas par rapport à la génération précédente. Elles le comprennent par rapport à ce qu'on leur fait à elles. Ce qui est normal, parce qu'on vit dans le présent. Mais si on essaie d'analyser ce phénomène-là, il faut voir la succession des générations.
Et l'historique. C'est ce qu'on est en train de faire, Alexis Burgère, avec vous. Votre historique, voilà. À vous. On va écouter une chanson de Nick Drake, chantée par Mitten. C'est Riverman. C'est vous qui nous l'a proposé.
Magnifique.
Elle a un sens pour vous ?
Elle a un très très grand sens. Mitten, c'est un ami très très proche qui fait pour moi des très très belles chansons où il intègre énormément d'éléments de liberté, en même temps de courage et d'Inde et de voyage et d'introspection.
C'est tout vous, quoi.
Close to the water, well, that's where I am. River is my teacher. Close to the water, well, that's my plan. River is my teacher. Clean or dirty, that's the way she goes. It's not about the water, it's all about the flow. I know, 'cause I am a river man. I am a river man. Close to the water, I'm on holy ground. River is my teacher. I love to hear her singing. I love that sound.
path of least resistance. I know. She says it's not about the distance, it's all about the flow. About the flow. Could have been a carpenter, carving Buddhas out of trees. I could have been a fisherman, sailing out on the sea.
Magnifique votre ami Mitten comme il chante. Vous m'avez dit qu'il chantait aussi des mantras.
Il chante beaucoup de mantras, oui.
Mm-hmm.
Avec sa compagne Deva Premal. Oui, très différent, mais très beau et très méditatif comme musique, en fait.
Mmh. Avec cette voix absolument magnifique. Il est anglais.
Il est anglais, oui.
Mmh. On continue à parler de vous ?
Oui.
Tout d'un coup, on se rend compte que les choses les plus simples, on a de la peine à les faire. Et puis, enfin, ce qui me concerne, je déviais tout le temps un corner. Je me disais, la méthode Coué, ça ira mieux demain, ça passera. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que tout ce qui concernait mon emploi, c'était une montagne quasi infranchissable. Et puis, c'est venu sur tous les domaines, en fait. Une incapacité, une perte de mémoire et une perte de sommeil, et puis voilà.
Et donc, t'étais hyper compétent dans ton domaine depuis des années. Tu faisais de la comptabilité, t'avais absolument aucun problème particulier avec ton travail. Et puis, progressivement, tu t'es rendu compte que tu pouvais plus effectuer des tâches toutes simples, tu mémorisais plus les choses. Et puis quand tu dis que tu dégageais un corner, qu'est-ce que tu faisais en fait ?
Je venais quand même au travail parce que je voulais absolument être là. Hein. J'appelais ça du présentéisme. Il fallait que je sois là de toute manière. Et puis je voyais que des collègues avaient besoin de petits coups de main dans tous les domaines. Alors je venais là, mais je faisais tout sauf mon travail. Et puis j'aidais Pierre-Paul Jacques dans ses tâches quotidiennes, au détriment de mes objectifs, qui rajoutent une couche dans l'incapacité et le stress d'arriver à assumer les responsabilités que j'avais avant. Effectivement, avant, le stress pour moi c'était quelque chose de positif, et puis c'était porteur d'énergie. Alors que une fois qu'il se retourne contre moi, ça devient un ennemi, et puis il est là tous les instants.
On parle bien sûr de burn-out, c'est un peu la maladie du siècle, hein, le burn-out, Alexis Burger, et vous le connaissez bien, ce syndrome-là, le burn-out.
Alors, je le connais bien, oui.
Parce que vous avez fait votre thèse là-dessus.
J'ai fait ma thèse de doctorat là-dessus, et puis je l'ai vécu aussi, ce qui me concerne, lorsque je travaillais dans les hôpitaux à Genève. Puis ça m'a beaucoup accompagné, cette réflexion sur le burn-out. Comment on peut faire pour avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée ? Et ça, c'est aussi quelque chose qui concerne le 21e siècle. C'est quelque chose de... Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de burn-out avant, il y en avait bien entendu, mais il y a quelque chose qui a changé à partir du moment où on a commencé à s'occuper de la santé des gens qui travaillent. Parce que si vous regardez comment les gens travaillent au 19e siècle, il y avait très peu de protection. Et puis tout au long du 20e siècle, on a augmenté peu à peu la prise en compte des dangers, des intoxications, des choses comme ça. À la fin du 20e siècle, on s'est retrouvé, en tout cas dans nos pays, avec un bon arsenal de protection qui protégeait finalement le corps des gens. Mais on ne s'est pas du tout occupé de leur esprit, de leurs émotions, de leur âme, etc. Et ce qu'on voit actuellement exploser comme souffrance au travail, c'est une souffrance qui concerne effectivement l'esprit, l'âme, mais pas le corps. C'est des gens qui se retrouvent plus, qui se comprennent plus, ou comme l'homme qui vient de témoigner là, qui dit tout à coup ce que je croyais être un moteur, le stress, ça s'est retourné contre moi, c'est devenu un ennemi, ça m'a détruit, etc. Et c'est très sensible ce qu'il dit, parce que c'est vrai, le stress de temps en temps, quand c'est ponctuel, quand c'est limité, c'est une
stimulation.
Mais oui, c'est une stimulation, c'est une décharge d'énergie, et ça permet de surmonter une difficulté. Mais quand ça existe en permanence, c'est quelque chose qui use l'organisme. Et la première partie qui est touchée, c'est le psychisme, c'est le désir, c'est le plaisir, c'est l'entrain, c'est... Et voilà, on a de plus en plus de gens qui souffrent de ça, et c'est un sujet qui est loin d'être traité pour l'instant dans le monde du travail.
Quel est le lien avec le défi masculin, ce livre que vous publiez aux éditions Favre, et plus généralement avec le fait d'être un homme, le burn-out?
Je fais pas vraiment un lien entre le burn-out et la masculinité, parce qu'il y a aussi des femmes qui vivent le burn-out. C'est quelque chose, le burn-out pour moi, c'est une altération de la relation au travail. Peut-être que les hommes ont un sens de la performance qui est un tout petit peu plus fort, ils sont un peu plus conditionnés à ce niveau-là, donc ils tiennent souvent plus longtemps avant de craquer. Donc quand ils craquent, en général, c'est plus grave. En tout cas, vu du point de vue du psychothérapeute, la plupart des hommes, quand ils arrivent en traitement, sont vraiment plus affectés que les femmes, parce que les femmes sentent plus vite et surtout elles tiennent compte de ce qu'elles sentent beaucoup plus que les hommes. Alors les hommes, quand ils sont dans une situation d'usure à leur travail, ils tiennent, parce que quelque part tenir, c'est noble dans une certaine image de la masculinité, mais ça marche pas. Quand on est mal agencé dans notre travail, c'est pas de tenir plus longtemps qui fait qu'on va trouver notre plaisir. Il faut vraiment revenir sur soi et se demander ce qu'on fait là.
Pourquoi vous avez choisi de faire votre thèse sur le burn-out, Alexis Purget?
C'était les circonstances, c'est que j'étais débordé de travail, puis en plus je devais faire ma thèse, je savais absolument pas comment je pouvais libérer du temps pour ça. Ça me faisait beaucoup souffrir parce que j'étais plutôt vers la fin de mon passage dans les hôpitaux, je savais pas combien de temps j'allais encore y passer, il fallait que je fasse cette thèse. Et puis, il s'est trouvé que j'animais avec certains consultants des séminaires à Bel Air, donc l'ancêtre de Belle Idée, sur le burn-out. Et je me suis dit, mais dans le fond, le seul sujet qui est présent pour moi, c'est le burn-out. Je suis un exemple à étudier cliniquement et à partir de quoi je peux faire un travail.
Alors, vous avez travaillé sur votre cas?
J'ai travaillé sur mon cas d'abord. Et j'ai eu un professeur à qui je suis très reconnaissant d'avoir accepté cette démarche, parce que beaucoup trouvaient ça totalement farfelu. Déjà, le burn-out en 88, c'était pas du tout un terme qui était reconnu, en tout cas par médecine.
On savait même pas ce que c'était.
On savait pas ce que c'était, on trouvait que c'était farfelu. Lui, il a compris l'enjeu de la chose. C'était le professeur Hénal à Genève, qui travaillait aussi à Stanford, donc il sentait venir le vent, parce qu'en Californie, on en parlait déjà. Il a accepté ce travail. Donc, je me suis basé sur les choses que j'observais de moi. Je me suis basé sur les choses dont on parlait dans ces séminaires de prévention du burn-out que je co-animais à l'hôpital de Bel Air. Et puis, ça donnait cette thèse. Après, c'était un travail de recherche pour compléter, pour théoriser. Puis, ça donnait cette thèse qui m'a été très utile parce que ça m'a donné une sorte d'identité. Et quand le burn-out est venu un peu plus à la mode, j'ai eu beaucoup d'occasions d'intervenir dans toutes sortes de milieux à partir de ça.
Et notamment à travers vos patients, qui sont
voilà, les
vous
patients,
voir, parce
oui.
que vous connaissiez bien déjà le sujet. Si on appuie sur la touche rewind, j'aime bien faire ça de temps en temps comme vous, les psychiatres. Pourquoi vous avez entamé des études de médecine et pourquoi avoir choisi après la psychiatrie comme spécialisation?
Là, vous vous rendez compte, vous allez toucher dans l'archéologie familiale. Moi, je me suis toujours posé des questions sur pourquoi j'étais moi, pourquoi le monde est le monde, pourquoi les arbres sont verts puis pas bleus. Comme beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'enfants qui ont ce genre de questionnement.
Puis là, c'est de la philosophie.
Oui, c'est des questions essentielles en fait. Mais grandir, parfois, ça signifie oublier ces choses-là et dire c'est des questionnements d'enfants. Moi, je pense pas. Je pense que c'est des questionnements essentiels. Et ils sont restés. Et je me comprenais pas. Je me comprenais pas non plus dans ce monde. Je me comprenais pas dans les relations. Et puis, je viens d'une famille où il y a une bonne partie, de gens qui étaient dans le domaine de la thérapie, de la psychologie, de la psychanalyse, etc. Il y avait aussi une bonne partie qui était du côté des patients avec des gros problèmes psy. Mais mes parents, eux, étaient très ouverts à ce qui, à l'époque, était la psychothérapie dominante. C'était la psychanalyse. Donc ça m'a aussi probablement donné une autorisation et j'étais passionné par tout plein de lectures pendant mon adolescence, ce qui fait que, et puis j'allais très mal à l'école, donc je me suis dit en tout cas pas les lettres parce que je risque de me retrouver de nouveau dans une école, donc la médecine c'était plus quelque chose qui me permettait de satisfaire mon esprit scientifique et puis en même temps peut-être une fois de répondre à ces questions, je me disais. Après, ça c'est des motivations. Après, quand on se retrouve en médecine, on n'a plus le temps de penser à ça. Donc il y a un tel travail, et puis c'est passionnant aussi. Moi, j'étais passionné par les approches scientifiques, donc j'ai complètement oublié cet objectif-là. Mais ensuite, sur la fin des études, et après, ça m'est revenu, je me suis dit, mais il n'y a qu'une branche que j'ai envie de faire, c'est la psychiatrie. Voilà, ça m'a permis de renouer avec mes ancêtres.
Vos ancêtres, bah ça c'est une jolie méthode hein, pour renouer avec ses ancêtres. En même temps, vous disiez pas les lettres, je vais me retrouver dans une école, mais dans le genre longues études, la médecine, on fait pas mieux quand même.
Oui, c'est des longues études, mais ma scolarité était très très pénible. Et puis je voulais surtout pas me retrouver dans une école dans ma vie professionnelle. Je préférais faire un effort et puis être dans un domaine tout différent. Moi, j'ai beaucoup aimé les études de médecine. J'avais très peur d'arriver à l'université après une école catastrophique. Je me disais, mais peut-être que ça va aussi être catastrophique. Mais tout à coup, être dans un milieu aussi stimulant, où on travaillait sur les dernières recherches, moi, j'ai beaucoup aimé ça, même si, évidemment, il y a un côté bourrage de crâne qui est affolant. Et puis, il fallait tenir le stress aussi. Mais c'était passionnant.
Ça vous dira un peu de sirop égyptien par-dessus ça?
Ah oui, pourquoi pas, oui.
Du sirop égyptien musical.
Oui, Natacha Atlas.
Même pas, non. C'est Amr Diab.
Ah ouais, ça j'aime beaucoup.
C'est un chanteur égyptien, Amr Diab, D-I-A-B.
C'est un chanteur qui nous accompagne toujours dans le désert.
Ah bah alors ça c'est très romantique, hein, avec, on vous imagine, nous les femmes qui ne pouvons pas venir avec vous, on vous imagine, vous les hommes, écouter cette chanson, c'est absolument charmant comme tableau.
تملي حبيبي مش قادر تملي عليا تندم.
Oui, ça c'est la musique qu'on écoutait dans les taxis il y a longtemps, parce que je crois qu'elle date d'un petit moment, cette chanson d'Amr Diab, Tamal Limarak, mais il en a fait beaucoup d'autres. C'est une superstar, il faut dire, Amr Diab en Égypte. Et vous m'avez dit l'écouter régulièrement lors des voyages.
Ah oui, très régulièrement, parce que quand on voyage dans le désert avec ces groupes, on danse, on bouge, on se secoue, il y a tout plein d'exercices corporels.
Vous vous battez aussi.
Ça nous arrive aussi, oui, de façon très cadrée. Hein. Il n'y a pas de violence réelle, hein. C'est toujours très cadré. Mais on fait beaucoup d'exercices corporels et certains sont soutenus par la musique.
Et notamment par Amr Diab, c'est drôle d'imaginer ça. Vous m'avez précisé d'ailleurs, Alexis Burgère, que vous ne faites pas que des groupes d'hommes, vous n'accompagnez pas que des groupes d'hommes dans le désert. C'est
pas
une
seulement.
Année les hommes, l'année
voilà.
D'après c'est mixte.
C'est ça.
Et puis les hommes de nouveau. Les femmes, vous avez essayé une fois?
Là, on n'avait pas beaucoup de succès pour des groupes de femmes. On a fait qu'une fois, il y avait 8 participantes. Tandis que dans les groupes d'hommes, on est toujours entre 15 et 20, 22, ce genre de chiffres. Les groupes mixtes aussi. Et c'est ce qui est bien, parce qu'on reste 15 jours quand même ensemble. Donc il faut qu'il y ait un relativement grand groupe pour que les rencontres entre les participants restent surprenantes jusqu'au bout. L'idée quand même de ces groupes, c'est que chacun va bénéficier du soutien de l'ensemble du groupe. Donc il faut qu'il y ait de la diversité, il faut qu'il y ait de la nouveauté dans les découvertes que chacun fait avec le reste du groupe.
Et qu'on voit d'autres manières de voir les choses.
C'est
chez
ça.
D'autres hommes.
Qu'on voit d'autres manières de voir les choses, qu'on voit d'autres positionnements. Quand un jeune de 20 à 30 ans qui travaille sur des relations qu'il a pu avoir avec son père, par exemple, rencontre un homme de 60 ou 70 ans qui travaille sur les relations qu'il a avec son fils, ça donne des choses étonnantes et ça crée la possibilité aussi de faire ce qu'on appelle dans le jargon du healing, c'est-à-dire du travail de guérison, où on va plus loin que simplement comprendre ce qui s'est passé, mais on peut créer des dispositifs pour traiter, pour soigner les traumatismes, les cassures de liens, les éloignements qui ont pu faire souffrir les uns ou les autres.
D'ailleurs, ces dispositifs sont parfois symboliques. On va entendre quelqu'un que vous connaissez bien. Je suis sûre que vous allez le reconnaître. Ça va vous rappeler quelque chose, car vous étiez présent à ce moment-là.
Donc, symboliquement, je vais brûler mon acte de naissance. Bon, c'est une copie. Précise. C'est le testament de ma mère qui m'a donné la responsabilité du partage. Je suis plus responsable. Je peux plus rester avec ça. Parce que toi, t'es parti. Ça fait 13 ans. Mais pour moi, tu es encore là. Je peux plus vivre avec ça. Donc c'est là-dedans. Tout ce qui m'empêche de vivre.
Non, puis petit à petit, il faut que je règle un certain nombre de trucs. Là, ce qu'on a fait ce matin sur l'attente encore comme ça d'une reconnaissance d'une mère qui pourra jamais me reconnaître, c'est pas de sa faute, elle n'en est pas capable. Ben moi, c'est comme s'il y avait une coupure. Quand je suis dans le siège en osier derrière son vélo, c'est planétaire, quoi, c'est solaire, quoi. Puis après, j'ai l'impression que de me faire engueuler, quoi. Mais par contre, ce qui me vient tout le temps, c'est... est-ce qu'on peut m'aimer, moi, quoi, tu vois? Est-ce qu'une femme peut m'aimer? Maintenant, je commence à le concevoir, mais longtemps, c'était inconcevable. Moi, je crois que c'est elle qui nous autorise. Si tu veux, c'est par leur manière, leur regard, leur truc. Tu sais que tu peux y aller, quoi.
À un moment donné, moi, je crois que je me suis laissé bouffer par ces femmes. Je cherche plutôt maintenant une harmonie que des rapports de force. Donc en créant des rapports de force, à un moment donné, il y en a un des deux qui cède. Et souvent, c'est moi qui cède.
Trois des participants à votre expédition, vos expéditions dans le désert, Alexis Burgère, ce sont des extraits du film Le souffle du désert, qui avait été tourné par François Coller, il faut quand même le dire. Et vous avez filmé, vous avez suivi. Là, on s'est glissé comme des petites souris dans ce groupe d'hommes. Voilà ce qui se passe, notamment.
Oui, il était très très fin comme il a fait ça. Il a pas montré les choses les plus, comment dire, spectaculaires du point de vue émotionnel. Il a montré vraiment ce qui avait du sens. Et il interviewait les hommes, comme ces deux hommes qui discutent juste après les ateliers. Donc ils étaient chauds, ils avaient travaillé sur des choses importantes, ils avaient compris des trucs, ils avaient exprimé des choses qu'ils avaient jamais exprimées jusque-là. Enfin, il y avait quelque chose qui s'était passé pour eux. Et à chaud, comme ça, François prenait... Une personne demandait, t'es d'accord qu'on te filme, ça, et il filmait une petite interview comme celui qu'on vient d'entendre. Donc les témoignages sont très vrais parce que ils sont très habités.
Mmh. Ils viennent de vivre quelque chose d'important. Alors oui. Cette idée, elle n'est pas venue de nulle part, cette idée de créer des groupes d'hommes pour les emmener dans le désert. Les groupes d'hommes, il y en a plusieurs.
Hein. Oui, il y a beaucoup de groupes d'hommes.
Il y a le Mankind Project qui vient, je crois, du Québec.
Alors, Mankind Project, c'est un grand mouvement de groupes hommes. C'est des centaines et des centaines de groupes hommes. Ça vient des États-Unis, en fait.
Ah, des États-Unis.
Et c'est un mouvement de groupes hommes qui est en pleine expansion et qui est très intéressant, très basé sur des rituels. Du Québec, il y a aussi eu un grand mouvement important qui est venu plus tôt dans les années 90, des réseaux hommes, ce qu'on appelait les réseaux hommes, qui avaient été lancés par Guy Corneau, Gaëtan Côté, enfin plusieurs hommes du Québec. Et ça s'est beaucoup développé dans la francophonie, en fait. Donc le réseau homme, on le trouve au Québec, en France, en Belgique, en Suisse. Le MKP, le Mankind Project, on le trouve un peu partout.
Mmh. Comment vous avez eu l'idée, vous, Alexis Burgère, de commencer à travailler avec ces groupes d'hommes?
Oh, c'est nouveau, c'est des concours de circonstances. Moi, j'avais fait des groupes d'hommes pour moi, mais dans le contexte d'un développement personnel où je faisais tout plein de groupes, des groupes sur la sexualité, des groupes d'hommes, tout plein de choses. Puis j'avais trouvé ça passionnant et je m'étais intéressé de plus en plus à ça. Et là, on arrivait dans les années 90, il y avait l'arrivée des réseaux hommes, justement, du Québec. Il y avait le livre de Guy Corneau, Père manquant, fils manqué, qui avait beaucoup marqué. Donc ça m'avait intéressé, j'avais fait des choses dans ce domaine-là. Et ensuite, il y a eu l'aventure du Souffle du Désert. C'est que pour fêter les 10 ans de l'existence de ces réseaux hommes, les hommes en question avaient décidé de faire un voyage dans le désert. Et elles avaient demandé à mon ami Jean-Marc de l'organiser. Et dans ce groupe était présent François Collère, qui s'est dit « ça c'est trop fantastique, il faut qu'on filme ». C'est à partir de là qu'il a commencé à réfléchir à filmer un groupe d'hommes dans le désert. Mais évidemment, pour réaliser un tel projet, il y a beaucoup de conditions qui doivent être remplies. Et puis, une des conditions, c'est pour que ça marche sur 15 jours dans le désert pour faire un film, avoir assez de matériel, il fallait un groupe qui soit animé, en fait, qui soit pas autogéré, parce que ça c'est beaucoup trop long, mais il fallait un groupe qui soit animé pour faire un peu une concentration de ce qu'il y a d'intéressant à exprimer et à montrer. Et ça a débouché sur ce projet Souffle du désert. On a travaillé 2 ans avec François à mettre en place un processus qui soit filmable, parce que vous voyez bien que l'introspection, c'est pas très filmable, c'est pas sexy. Hein. Quelqu'un qui fait une prise de conscience, on voit pas. Donc, il fallait trouver une manière de mettre ça en forme pour le rendre un peu visuel. Donc ça a pris pas mal de temps. Et finalement, on s'est retrouvé dans le désert et bon, il s'est passé ce qui s'est passé, mais ça a donné un résultat fantastique. En tout cas, pour moi, c'était très fidèle à l'esprit du groupe qui était sur place, ce film. Et là, j'ai rencontré Jean-Marc Commer, qui avait été responsable de la logistique de ce film et qui avait été aussi l'organisateur de ce premier voyage d'anniversaire des 10 ans des réseaux hommes. Et avec lui, on s'est très bien entendu, on a décidé de continuer. Et depuis, on en a fait chaque année, on en a fait plus de 15, ces voyages.
Mmh. C'est quand le prochain ?
C'est en fin octobre.
C'est déjà complet ?
Non, c'est pas complet, les inscriptions arrivent tranquillement.
Comment on fait si on a envie d'y aller ? Moi, je peux pas, mais...
Vous pouvez pas cette année, non, mais l'année prochaine, si vous voulez. On envoie un mail, on va sur mon site web, sur ladune.ch, on m'envoie un mail, on tape mon nom sur Google, on arrive dessus, il n'y a aucun problème. Et puis, je fais régulièrement des séances d'information avec diaporama, avec explications, questions-réponses, on se présente, comme ça les gens peuvent voir à qui ils ont affaire. Je demande aussi de voir les gens individuellement, petit entretien pour vérifier des questions de santé, des questions d'objectifs personnels pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Et puis voilà, hein, c'est pas bien compliqué. Le désert, c'est pas vraiment difficile d'accès. C'est moins difficile que de faire un trek dans les Alpes.
Mmh. C'est tout simple alors. Vous suffit d'écrire maintenant les gars là qui nous écoutez.
Ah oui, il suffit d'écrire. Il suffit de libérer son temps. Mmh. C'est ça qui est plus dur pour les gens, c'est de trouver les 15 jours.
Mmh. 15 jours absolument enrichissants qui peuvent parfois ressembler à une année.
Alors les retours qu'on a, c'est que c'est très régulièrement des événements qui changent la vie des gens. Donc il se passe vraiment quelque chose dans ces groupes et on a des retours fantastiques des années après parfois. Il y a beaucoup de groupes qui continuent à se voir après ces voyages-là. Notre contrat est fini mais ils continuent sur une base autogérée et des années après on est contacté pour ceci ou pour cela. On entend des retours qui nous motivent beaucoup.
Continuez comme ça alors Alexis Burger. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Ceux qui n'ont pas le temps de partir 15 jours dans le désert, vous pouvez lire Le défi masculin. Et là, c'est ouvert à tout le monde, femmes et hommes, mais vos voyages aussi. Parfois, c'est mixte. C'est paru aux éditions Favre. 20 ans de dialogue avec des hommes. C'est édifiant et ça fait quand même réfléchir. On ressort avec beaucoup de questions et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup d'être venu nous voir Alexis Burger.
Merci à vous.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Samuel Morier-Genoux qui était en régie. Merci aussi à Diane Dufaux, notre assistante de production, et à toute l'équipe de la documentation écrite qui m'aide chaque jour à trouver des informations sur mes invités. Juste après les informations, justement, c'est Dernier rêve avant la nuit, donc vous pouvez encore rêver juste avant d'aller vous coucher. Et puis demain, on va rire et de manière totalement déjantée avec un clown punk nommé Alexandre Bordier. Merci d'écouter la première, il est 21h.